La Brussels Academy, université urbaine et citoyenne, diffuse les enregistrements des conférences du professeur Ricardo Petrella, qui est un grand penseur de la mondialisation. Ricardo Petrella illustre en six leçons son livre « Au nom de l'humanité, l'audace mondiale » paru en 2017. Vous allez entendre la deuxième conférence enregistrée le 6 octobre 2017 à la Maison des Cultures de Molenbeek et elle s'intitulait « Au nom de Dieu, de la nation et de l'argent, l'impasse mondiale ».
La dernière fois, je n'ai pas eu le temps d'analyser la deuxième grande raison qui est normalement utilisée pour expliquer pourquoi nous sommes dans une impasse. Et je vous disais que la thèse sur la nature humaine, finalement, ne tient pas debout, mais au contraire, la thèse sur la complexité des systèmes que nous avons créés ces derniers siècles, notamment décennies, est un argument qu'il faut analyser avec sérieux parce qu'il y a en partie, il y a de la vérité, entre guillemets, dans la thèse à complexité. Qu'est-ce qu'elle dit, la thèse à complexité? La thèse dit, ben, on a créé tellement de systèmes si complexes, si forts, si lourds, etc., que désormais, nous avons perdu le contrôle du mécanisme et du fonctionnement des systèmes complexes. On ne peut pas les changer parce que si on change quelque chose d'important, de fondamental dans les systèmes s'écroulent et personne ne peut accepter que notre système actuel s'écroule dans tous les domaines. Et donc l'impossibilité de résoudre le problème est liée à la nature très complexe, très puissante, très interdépendant des systèmes que nous avons créés. La complexité représente aujourd'hui une caractéristique de la condition humaine, à partir de l'idée que nous avons mis sur pied des relations entre nous, surtout, mais on comprend maintenant que les relations entre nous et les autres êtres vivants est très fondamental pour la pérennité de la vie. Nous avons mis sous pied toutes ces relations dont la caractéristique est l'interdépendance. On ne peut pas penser à quelque chose sans tenir compte des autres facteurs. C'est pour ça que, du point de vue analytique, par exemple, l'analyse des clusters, l'analyse des groupes est devenue une des méthodes de l'épistémologie et de la compréhension qu'on a du système dans lequel on vit. Et la cluster analysis, c'est que toutes les choses se font comme des grappes de raisins, quoi. Et que donc, il faut tenir compte de tout ça pour comprendre finalement que si le raisin est bon, comment il se trouve, quel est son état, et ainsi de suite. Et la complexité signifie l'interdépendance que le problème n'est pas tant dans le nombre des éléments en relation, mais que le problème fondamental est la densité, la multiplicité, la variabilité des relations entre les éléments. Cela signifie qu'un système qui a peu d'éléments, mais dont les relations sont très intenses, dynamiques, évolutives, etc., est plus complexe qu'un système qui a milliers d'éléments, mais dont les relations sont lentes, pas nombreuses, rares. Et donc, un système qui n'a pas de vivacité interne, c'est-à-dire que les interdépendances ne sont pas très, à son tour, complexes, ce système est moins complexe que lui qui est, au contraire, composé de 10 personnes. Et ces 10 personnes sont en contact, en interaction multiples, variées, permanentes, continues, etc. Ce qui est significatif, parce que l'interdépendance, au fond, caractéristique fondamentale du système complexe, donne une deuxième caractéristique d'un système complexe, c'est-à-dire la puissance. Plus les relations sont fortes entre les éléments membres du système, plus alors les capacités d'action du système sont puissantes. Et ça donne donc non seulement le fait d'être large, à large échelle, grand, ce qui fait la caractéristique des systèmes complexes, mais c'est la puissance des relations d'interdépendance qui fait que toi qui es dedans, tu ne peux pas t'en sortir aussi vite que tu veux, ou comme tu le veux, parce que désormais tu es imbriqué de manière forte dans les relations multiples variées. Et la puissance du système complexe pousse justement les éléments du système qui croient ou qui ont la capacité de produire des systèmes, de le contrôler, donc de l'orienter, à penser que la complexification croissante de son système est la base fondamentale de la croissance de son pouvoir. Donc, on arrive à des dynamiques où, dans un système complexe, la puissance du système est la base du pouvoir de ceux qui sont les éléments qui peuvent contrôler la dynamique du système. Donc, vous avez immédiatement interdépendance, puissance, pouvoir. Et en effet, au bout de cette chaîne, vous trouvez que le pouvoir ou les pouvoirs justifient la pérennisation de leur pouvoir en disant non, le système est trop puissant, tu ne peux pas les changer. Et secondo, si tu les changes, tu t'y perds aussi, tu t'écroules. Et donc, c'est pour cela qu'à l'heure actuelle, la thèse de la complexité, qui est une des thèses des dominants, est justifiée parce que les dominants ont intérêt que le monde devienne de plus en plus complexe, de plus en plus puissant, et que donc les gens ne se trouvent dans la condition que de pouvoir intervenir dans un domaine particulier, et pas nécessairement dans un domaine stratégique, parce que si leur capacité de pouvoir sur la puissance est forte, il est clair que personne n'a la facilité d'intervenir dans les interdépendances qui sont déterminantes, stratégiquement importantes. D'où l'inévitabilité des dominants à prêcher la naturalité de la complexification des systèmes, parce que cela comporte le renforcement de leur pouvoir. Et plus on les complexifie, plus le pouvoir se concentre. C'est la possibilité de pousser le bouton rouge nucléaire d'une personne. Donc, tous les systèmes complexes que nous avons bâtis pour créer l'armement et la sécurité de notre système dépend finalement de quelqu'un qui peut, une seule personne qui peut pousser un bouton. Et alors, c'est pour ça de dire, mais si tu n'as pas le pouvoir, tu peux te tromper. Tu peux essayer de proposer quelque chose qui modifie stratégiquement les équilibres internes du système et tu fais tout sauter. Donc, prudent, laisse le pouvoir ceux qui ont la connaissance et on termine sur le problème de la complexité à la décrire en disant que finalement la connaissance est l'élément déterminant. Et ceux qui ont le pouvoir de la connaissance sur le système ont le vrai pouvoir. Et si vous pensez qu'aujourd'hui, le facteur plus important de la complexification et sont les connaissances scientifiques appliquées dans les technologies, donc sont les technologies, la technologisation de la société et du monde est l'expression forte de la complexification croissante des systèmes dans lesquels nous vivons, vous pouvez imaginer, comprendre pourquoi aujourd'hui, les vrais pouvoirs résident dans ceux qui construisent la connaissance scientifique applicable à des moyens, c'est-à-dire que puis toute la technologie, c'est des moyens. Et plus ces moyens sont complexes, plus ceux qui ont créé les bases de connaissances qui permettent l'application de ces connaissances à donner les moyens aux êtres humains de vivre, eh bien plus le pouvoir technoscientifique devient le vrai pouvoir. On en verra après, au cours des prochaines rencontres, pourquoi cette technoscientification technologisée des sociétés a complètement appauvri, nullifié le pouvoir démocratiquement élu par des systèmes représentatifs. Et la chose la plus simple est de dire un parlement n'a jamais produit un algorithme. Quand aujourd'hui on nous explique que le Parlement wallon ou le Parlement européen n'a jamais produit un algorithme, vous dit qu'alors il y a des laboratoires, des centres de recherche, des grandes entreprises qui produisent les algorithmes, qui ont le pouvoir. Et quand vous dites, vous le constatez vous-même, que de sommet, nous tous, nous dépendons, par exemple, de Google ou de Microsoft, hein, eh bien, ou de Facebook, ou de, bien de Twitter, ce sont des algorithmes. Facebook est un algorithme. Tout ce qu'a fait Google sont des algorithmes qui sont mis dans des machines extrêmement puissantes en termes de manipulation. Quand vous pensez, vous cliquez tantôt dans votre ordinateur et vous demandez Petrella, non ? Non, pour dire. Et que en des millionièmes de secondes, votre nom sort avec les trillions de trillions d'informations que vous avez dans votre accessible en votre computer. C'est dans des millions de secondes, millionièmes de secondes. Et ça, c'est puissant. Et donc, qui a le pouvoir ? C'est ce qui fait les algorithmes qui permettra que demain, on peut avoir une information au milliardième de seconde. Donc, dans des temps humains complètement différents. Et on le verra appliquer ça au système financier. Alors là, la thèse est forte. Et la thèse est forte si bien que la culture dominante a dit que finalement, Thatcher, quand elle avait dit « There is no alternative Tina », non ? Thatcher était une personne politique de très haute sensibilité, perception, même cynique de ce qui est le pouvoir, ben, il ne faisait que dire ce que le système dominant ne nous dit tout le temps. On nous dit, tu ne peux pas changer, tu dois changer. Hein? Quand il dit, tu ne peux pas changer le système si tu ne changes pas, au fait, il dit, c'est toi qui dois te changer pour t'adapter au système, non ? C'est pour cela qu'on en reparlera quand on parlera des propositions. Moi, je voudrais faire une petite alerte sur l'idée que les changements commencent par soi-même. Hein. C'est la meilleure façon de nous esclaviser aux dominants. Si nous acceptons l'idée que la meilleure façon du changement passe par nous-mêmes à titre individuel. Qui change par nous-mêmes à titre collectif, oui. Mais qui change à titre individuel, c'est un gros problème de débat. Hein. C'est pour ça qu'on est ici pour débattre. Moi, je n'ai aucune intention de vous dire que c'est la vérité, loin de moi. D'ailleurs, on le verra tantôt. Donc, la complexité est un instrument formidable aujourd'hui aux mains des dominants pour dire l'histoire est finie finalement, sauf l'histoire dans les systèmes dans lesquels nous sommes. Et c'est vrai que la culture scientifique académique américaine, par exemple anglo-saxonne, va dans ce sens, à part une petite minorité. Va dans le sens de dire que l'histoire de la vie sur la Terre, désormais, ne peut que s'inscrire dans le contexte concret des paradigmes qu'on a créés. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, quand vous réfléchissez, quel nouveau paradigme social, quel nouveau paradigme économique, quel nouveau paradigme technologique inventer, ben, tout le monde vous dit, tu es fou, quoi. Parce que tu ne peux pas le changer. Et ça, la plupart des gens acceptent ça. La plupart des médias acceptent ça. Si vous regardez, par exemple, tous les systèmes du changement climatique, des luttes contre le changement climatique, la complexité a amené les puissants à dire qu'il n'y a que deux stratégies possibles pour lutter contre le réchauffement de l'atmosphère, et de la température moyenne de l'atmosphère à moins de 2 degrés d'ici 2070, etc. Et c'est quoi ? La stratégie de la mitigation. La stratégie de la mitigation, il dit, faisons des choses pour nous permettre qu'immédiatement, nous puissions réduire les effets les plus pénibles, les plus dangereux, les plus destructeurs du changement climatique en cours. Mitiger. Mitiger, atténuer, réduire, etc. Non pas éliminer les causes. Et la deuxième stratégie, c'est la stratégie d'adaptation. Ça fait 20 ans que désormais, quand on parle des questions, les GIEC, donc les groupes intergouvernementaux sur le changement climatique, qui fait tous les rapports tous les 3 ans sur l'État, a inventé des mitigation strategy and adaptation strategy. No resolution strategy. No. Hein? Élimination des causes structurelles. Et pourquoi? Parce qu'il ne dit pas. On ne peut plus changer. Et on accepte désormais que tout notre problème de la pérennisation de la vie soit celui de ne pas arriver au seuil critique, c'est qu'on appelle les limites planétaires, les limites existentielles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas éliminer les cycles de l'azote, il ne faut pas éliminer les cycles du carbone, il ne faut pas éliminer les cycles de l'eau, etc., déstabiliser. Ce sont les limites. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas modifier ces systèmes, parce qu'on ne sait pas que si on les modifie, on puisse mettre en cause les mouvements de destruction du bon fonctionnement à l'intérieur des limites existentielles. Or, le défaut, et je termine sur cet argument, tout en étant, je vous l'ai dit, assez solide, qui justifie beaucoup de stratégies de conservation et de conservation du point de vue social, politique, économique. Le défaut fondamental de la stratégie de la complexité est qu'on ne peut pas imaginer un système de vie qui n'a pas la possibilité de changer radicalement. C'est ma critique sur les postulats théoriques. Après, concrètement, c'est vrai que c'est difficile de changer un système complexe comme celui-là, mais ça ne signifie pas qu'on ne puisse pas théoriquement le changer. Et ça, c'est, du point de vue théorique, c'est impossible de penser un organisme vivant qui n'ait pas la possibilité de changer, c'est ça. Quel soit un système vivant micro bien ou que ce soit un macro-système comme le nôtre actuellement. Voilà le défaut de la théorie de la complexité, alors que la théorie de la nature humaine, à mon sens, était fausse et ne permettait pas d'expliquer les choses. La théorie de la complexité permet d'expliquer pas mal de choses, mais elle est à les limites de ne pas admettre comme possibilité le changement du système. Et ça, c'est inconcevable. Du point de vue théorique, tout système vivant peut même mourir, c'est déjà un changement, non? Mais c'est là que nous devons combattre pour dire non, un système de vie peut être radicalement modifié. Et ça signifie après quoi? Quelle est la radicalité de la mutation? Si ça comporte la totalité de la disparition de l'algorithme, si je peux m'exprimer ici, qui est à la base de ça, ou si c'est simplement une modification, même en bien, en élargissement, en approfondissement, de l'algorithme qui est à la base du système vivant, donc le système génétique, par exemple. Hein. Personne ne peut dire que le système génétique de l'homme ne va pas être changé. Toute la chose, quand on critique les systèmes d'organismes génétiquement modifiés, la modification des systèmes des organismes actuels, c'est qu'on le fait dans le cadre des buts lucratifs, on le fait, à titre privé, et sans avoir véritablement analysé et accepté les limites de du changement, tenu compte des possibilités d'évolution imprévues. Donc, ça s'applique appliquer les principes de la précaution. Alors que maintenant, le principe qui est accepté est le principe de l'assumption du risque certifié. C'est-à-dire, quand on débat au niveau mondial de toutes les questions de la précaution ou pas, les dominants ont résolu le problème. Ils disent la précaution est bloquante, introduit des rigidités qui ne permettent pas de faire avancer, de faire progresser ou d'améliorer les systèmes. Donc la précaution n'est pas un bon système. Pour eux, le bon système, c'est l'assumption du risque certifié et donc la capacité immédiatement d'intervenir dès que les risques certifié qu'on a connu a des conséquences qui sont, par exemple, l'augmentation de l'eau de mer. Alors ils vous disent, si l'augmentation du niveau de l'eau de mer est telle, nous savons qu'il y a ces risques, inutile d'adopter les principes de précaution de ne pas faire, nous le connaissons, nous devons nous préparer. Et donc l'assumption du risque certifié signifie une grande capacité de la société de se préparer, de maîtriser les résultats même inacceptés et inacceptables de ce qu'on fait, mais il faut alors avoir cette capacité de mitigation et adaptation. Mais donc c'est assumer les risques certifiés. C'est-à-dire, nous sommes un système intelligent, assumons la responsabilité du risque que nous avons identifié. Le fait qu'on a identifié des risques nous donne déjà la possibilité, disent les dominants, nous donne déjà la possibilité d'être en mesure de diminuer les effets négatifs ou bien de nous adapter. Et l'assumption du risque certifié est à la base la logique des stratégies de mitigation et d'adaptation du changement climatique. Voilà pour la thèse sur la complexité. Alors, si la thèse en nature humaine ne nous permet pas de comprendre pourquoi on est dans l'impasse, si la thèse de la complexité, avec toutes ses formes puissantes, ne nous le permet pas non plus, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Il faut chercher ailleurs, il faut trouver d'autres causes. Et disons, non pas la prétention ou ma prétention, mais j'ai essayé de chercher ailleurs. Et les livres, c'est ça, quoi. J'ai essayé de chercher ailleurs et je me suis dit, finalement, il faut chercher au niveau du sens. Au niveau du sens de ce que nous sommes, au niveau du sens de la société, au niveau du sens de la vie, au niveau du sens de tout ce qui nous entoure. Donc, et il me paraît que cette approche est légitime, non pas seulement plausible, parce que on peut constater qu'il n'y a rien qui se passe dans notre propre existence qui n'est pas sans sens. Mais il y a toujours un sens. Tout ce que nous faisons remonte aux dépens, se réfère à un sens ou à des sens. Et toute l'histoire est une histoire des sens. C'est pour cela que les idéologies, c'est pour cela que les batailles social, disons par exemple la grande bataille humaine, celle contre l'esclavage, c'est pour le sens de la dignité, le sens de la liberté de tout être humain, non? C'est un sens, c'est la bataille contre l'esclavage. Le sens pour la démocratie, tout, le sens de la générosité, le sens de la vie, tout est déterminé par le sens. Et donc, à partir de ce postulat qui me paraît correct, je me suis dit, il y a en ce moment trois grands producteurs de sens qui, au fond, sont des destructeurs de sens. Et ces trois producteurs de sens ne nous permettent pas aujourd'hui, à l'ensemble des êtres humains, l'humanité que nous sommes, de pouvoir agir ensemble pour résoudre le problème. C'est un peu ma thèse. Alors, les trois producteurs de sens, et je vais essayer maintenant de redédier le reste de mon exposé de ce matin. Les trois producteurs de sens, les deux premiers sont vraiment paradoxaux. Le troisième est tout à fait compréhensible, mais les deux premiers, je me suis trouvé un tout petit peu, dit, mais est-ce que là, je commence à déconnecter ou à déconner, quoi, parce que ça, c'est... Et pourtant, le premier producteur de sens qu'aujourd'hui est destructeur de sens et qui nous empêche de vivre comme ensemble, c'est tout capable ensemble de résoudre le problème, c'est au nom de Dieu. Et vous pouvez imaginer qu'au nom de Dieu, immédiatement, quand on pense les sens qui est développé dans notre vie, dans notre existence quotidienne, au nom de Dieu, ça devrait être que nous tous, on est tous bons, quoi. Qu'on soit tous portés à respecter l'autre, à le considérer frère ou sœur. Au nom de Dieu, on devrait être porter à cette cosmopolitisation de la vie, à être ouvert à respecter les différences. Au nom de Dieu, ça devrait nous lever d'un cran terrible vers des envies, des désirs de vivre ensemble, d'être généreux, au nom de Dieu, de nous faire sortir de cette terre en amour de l'esprit, l'esprit d'une vie, que ce soit effectivement la lumière, que ce soit... Eh bien, ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas vrai. Ah, aujourd'hui, je ne parle pas de le passé. Le passé, on sait bien, les guerres de religion, etc. Donc, mais ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on reste, au nom de Dieu, reste un élément de blocage parce qu'elle crée la différence. Une différence qui n'est pas la différence que chacun est porteur de vérités différentes, chacun est porteur de sentiments différents. Différente signifie porteur d'une manière diverse, non, qui n'est pas la même. C'est la non-homogénéité d'être porteur. C'est une différence, excusez-moi si j'ai fait des jeux de mots, mais l'étymologie est fondamentale dans les mots que nous utilisons. C'est une différence diversité, c'est-à-dire divergente. C'est-à-dire la diversité n'est pas la différence. La diversité, c'est aller vers une autre direction. On peut faire la même chose de manière pas homogène. La diversité, c'est l'opposition. Donc, quand il y a la divergence, des opinions différentes sont moins conflictuelles que les opinions divergentes. Hein? Parce que les chemins divergents vous éloignent. Hein? Et à un certain moment, même ne vous permettent pas de vous rencontrer. Hein? Et la diversité, la divergence a été toujours source de conflit. La différence, au contraire, ça peut être source de création commune. Et donc, aujourd'hui, au nom de Dieu, fait les diversités, encore. Même si l'écuménisme essaye depuis des décennies désormais de... au niveau du sommet des grandes organisations religieuses, on voit que ce n'est pas ça. Vous faites l'écuménisme en Europe, dans la Méditerranée, et puis les mêmes religions qui font l'écuménisme ici, en Inde ou en Indonésie ou en Chine ou dans nos Balkans ou bien... en Amérique latine, ces mêmes religions se font la guerre. Et aujourd'hui, vous le savez, en Inde, les musulmans sont persécutés. Hein? Et à côté, en Thaïlande, en Myanmar, sont persécutés les musulmans. Mais les musulmans en Indonésie, ils persécutent les hindous. Ils persécutent ceux qui ne sont pas musulmans. Et ce n'est pas l'islamisme qui fait qu'au nom de Dieu ne permet pas d'aller ensemble. Mais au nom de Dieu, par exemple, ne permet pas en Amérique latine, où il y a à peu près maintenant 300, 400 grandes chapelles religieuses, de faire ensemble des activités communautaires. Dans les grandes villes d'Amérique latine, il y a toutes ces chapelles de petits groupes religieux qui sont en train de faire en sorte que les 700 millions de latino-américains n'ont pas une vision commune, sont divergentes, ils divergent, ils vont dans toute une série de directions. Il y a une seule une personne qui aujourd'hui est en train de parler au nom de Dieu, d'un nom d'un Dieu qui ne divise pas, et c'est Papa Francesco. Et c'est pour ça qu'il n'est pas aimé par son clergé, à part la curie. Hein. Les clergés dans le monde, pas les clergés en Italie ou en France, mais en Amérique latine, en Afrique, etc. Il n'est pas tellement aimé par son clergé. Et c'est le seul qui, justement, n'a pas cette vision de Dieu. Et c'est le seul qui parle au nom de Dieu.
qui unit.
Mais pour le reste, la vie quotidienne, encore aujourd'hui, si après vous prenez les bons pensants musulmans, le bon pensant chrétien protestant, le bon pensant orthodoxe, le bon pensant catholique, ils ne sont pas ensemble avec les autres. Et c'est pour cela qu'à l'heure actuelle, au nom de Dieu, est destructeur du sens de vivre ensemble, destructeur de la manière par laquelle nous interprétons dans les villages d'Africaines, ou bien en Sibérie, ou bien dans les grandes villes d'Amérique latine ou d'Asie, on interprète ce qu'est la vie. Et on a d'autres perspectives. En tant que porteurs d'une foi, nous ne sommes pas capables de résoudre le problème du monde. Au contraire, être porteur de foi différente, et même, je vous l'ai dit, surtout diverse, eh bien, ça nous empêche d'avoir une vision de notre devenir commun. On parle de responsabilité partagée, au fond, la thèse dominante, la déclinaison dominante de la responsabilité partagée, c'est que toi, tu dois partager la responsabilité, parce que moi, je l'ai fait déjà, quoi. Parce que moi, j'ai le bon Dieu, j'ai déjà la vérité, je pratique l'amour, je pratique la fraternité, je pratique la solidarité, etc. Si au nom de Dieu était quelque chose de positif, on croit qu'il y a 5 milliards et demi de croyants. Eh bien, comment a-t-on fait qu'on a détruit tous les droits partout dans tous les pays? Pourquoi on ne reconnaît plus les droits dans nos mondes? Si tous ces 5 milliards et demi étaient au nom de Dieu véritable, pourquoi l'ont-ils permis ça? Et en effet, encore une fois, si vous prenez toutes les stratégies de la lutte contre la pauvreté, tous ces gens qui se croient croyants, au nom de Dieu chrétien, au nom de Dieu catholique, au nom de Dieu orthodoxe, pourquoi ne pas lutter contre toutes les mesures qui ne font que grandir encore une fois l'appauvrissement dans le monde? Et au contraire, juste ces 30 grandes dernières années, les mécanismes d'appauvrissement se sont renforcés. Et avant-hier, moi, je suis tombé sur les résultats de Capgemini World Wealth Report, les rapports annuels que Capgemini, une société de consultants privés, publie sur la richesse, parce que Capgemini intéresse savoir combien les gens sont riches, etc. Eh bien, il donne qu'en 2016, sur 7,4 milliards de gens, il y avait 13 millions sur 7 milliards et demi de personnes qui ont un revenu net supérieur à 1 million de dollars. Alors, ce n'est pas beaucoup, hein, 13 millions sur 7 milliards. Et avoir un million de dollars, c'est-à-dire à peu près 900 000 euros, les gens qui ont eu d'une ou deux maisons immédiatement, non? Ça fait quelque chose. Donc, c'est 13 millions seulement. Et ils ont augmenté. Ils ont augmenté de 32% en 3 ans. Alors que les gens qui ont moins de 600 euros ont encore plus augmenté que ceux qui sont devenus plus riches. Comment ça s'est fait que tous ces 5 milliards et demi qui vivent, disent-ils, au nom de Dieu, acceptent ça? Et pourtant, the World Council of Churches, qui est l'ensemble, le Conseil mondial des églises, fait très peu de lutte contre la pauvreté. Moi, il y a 3 ans, ils m'avaient invité à Genève à faire une conférence. J'ai été froidement reçu. Parce qu'ils ne partageaient pas les thèses sur les causes structurelles de l'appauvrissement. Donc, au nom de Dieu. C'est dommage. Non? C'est vrai, c'est paradoxal. Et je ne vois pas comme même Pape Francesco soit capable d'injecter une enzyme aussi puissant, un algorithme aussi puissant, que Pape Francesco puisse devenir à la source de la grande vague d'inondation du monde en fonction de son au nom de Dieu qui me paraît très bon. Donc, pour l'instant, le constat. C'était notre problème de savoir pourquoi nous ne sommes pas capables de résoudre ensemble les problèmes mondiaux. Le deuxième aussi est paradoxal. Même si il est vrai que ça commence à être plus cohérent avec le fait que nous ne sommes pas capables de résoudre le problème du monde. Et c'est au nom de la nation. Dans le livre, cependant, j'ai développé ensemble le concept au nom du peuple, bar nation, parce que, et ça c'est un problème assez délicat, et encore aujourd'hui, ça nous pose énormément de problèmes, les rapports entre peuple et nation. Pourquoi ? Pourquoi au nom de peuple-nation est un facteur inhibitoire de notre capacité de résoudre le problème à l'échelle mondiale ? Au fond, là aussi, au nom de la nation, au nom du peuple, a été source de grands progrès dans l'humanité. Au nom du peuple, c'est la base de la démocratie. Au nom du peuple, c'est à la base de la laïcisation des conceptions théocratiques. Ce n'est plus au nom de Dieu qu'il y a les autorités entre les êtres humains, c'est au nom du peuple. Ça fut un très, très important. Alors qu'encore aujourd'hui, il y a des pays, Israël par exemple, le gouvernement israélien veut introduire l'État juif. C'est-à-dire, il veut que la religion juive devienne la base, la constitution d'Israël. Comme si nous, on disait, l'évangile est la base de le gouvernement politique en Italie ou en Allemagne, quoi. Il y a encore des pays, pas seulement l'État islamique. Israël le veut, les États-Unis, etc., dans quelle forme Bush, qui a théorisé la ligne du mal et du bien, est une conception religieuse, très conservatrice, d'un nom de Dieu terrible, quoi. Au nom de la nation, donc, avait été, au nom du peuple, a marqué de manière fondamentale l'histoire de ces êtres humains dans le bon sens. Même si on peut dire que, restant au nom du peuple, la démocratie a eu des évolutions très bizarres. Par exemple, nous, on considère tous que Athènes est le berceau de la démocratie, de la civilisation occidentale. Je me permets de vous rappeler que la démocratie athénienne, le pouvoir du peuple, était une démocratie sans peuple, au moins un peuple très, très limité, parce que sur 11 000 habitants qu'on estimait qu'il y avait à Athènes, il n'y avait qu'à peu près 800 qui étaient les citoyens. Les autres n'étaient pas citoyens. Les femmes n'étaient pas citoyennes, les enfants n'étaient pas citoyens. Il n'y avait que les hommes. Hein? Et puis, les autres étaient étrangers dans le sens esclaves. Il y avait une petite minorité d'étrangers, mais c'est ça, la démocratie athénienne est une démocratie sans citoyens. Hein? C'est extraordinaire, quoi. Hein? Et la conception de la démocratie athénienne était les aristos. Aristocrate, aristo en grec signifie le meilleur. Hein? Et donc, ils ne travaillaient pas, les aristos. Ils gouvernaient. C'était les esclaves qui travaillaient. Les aristos, dans la démocratie athénienne, ne faisaient aucun travail manuel. Ils étaient là à gouverner. Hein? Et donc, si ensuite vous arrivez petit à petit, on sait que dans les... Après Athènes, il a fallu attendre beaucoup, mais la démocratie, disons, urbaine, mais c'était des conseils des seigneurs. Et puis, un autre, par exemple, un autre berceau de la démocratie, de la culture occidentale, la Suisse, si vous prenez la Suisse, c'était un peuple sans femmes. Parce que, vous, je ne sais pas si vous le savez, mais jusqu'en 1972, les femmes en Suisse ne pouvaient pas être élues et ils ne pouvaient pas participer aux élections. Les droits au vote des femmes, il n'y a que 40 ans en Suisse. C'était la grande démocratie occidentale.
qu'elles étaient, toutes ces femmes en Suisse? Qu'est-ce qu'elles faisaient, les femmes en Suisse? Elles ne sont pas révoltées. Hein? Et toutes les autres femmes des autres pays, pourquoi ne sont-elles pas révoltées contre le fait qu'en Suisse, les femmes ne pouvaient pas voter? Parce que les femmes ont accepté la démocratie du peuple sans femmes. Hein? Et encore aujourd'hui, c'est possible, ça. Et puis, vous rappelez, jusqu'au XVIIIe siècle, XIXe siècle également, dans pas mal de pays, c'était la démocratie censitaire. Vous devez avoir un revenu pour pouvoir être, avoir le droit de voter. Et à l'époque, ceux qui avaient certains revenus aujourd'hui seraient, par exemple, 3 000 euros. Si vous n'avez pas 3 000 euros à l'époque, vous ne pouvez pas voter. Aujourd'hui, si vous n'avez pas 3 000 euros, disons, la démocratie censitaire serait ça. Eh bien, c'était un peuple. Donc, le pouvoir était celui d'un peuple sans les pauvres. Donc, les pauvres étaient exclus. Alors, vous vous imaginez une démocratie sans citoyen, un peuple sans citoyen, une démocratie, un peuple sans femmes, et une démocratie, un peuple sans les pauvres. Ah ben, c'est fantastique, hein, le peuple, la démocratie. Hein? En tout cas, ça a été un progrès. Il en fut de même de la nation. La nation a permis de dire bah, ce n'est pas les rois, ce n'est pas Dieu, ce ne sont pas les bourgeois en tant que tels, ce ne sont pas les nobles qui. C'est le peuple personnifié dans la nation, c'est-à-dire. Et c'est pour ça que la démocratie nationale, l'indépendance nationale, la souveraineté nationale, la sécurité nationale est devenue, tous ces concepts sont devenus le corps dur de la démocratie du monde moderne. Souveraineté, sécurité nationale, qui petit à petit est devenue plus importante que la souveraineté la sécurité du peuple. Et c'est ce passage sur lequel je voudrais m'arrêter un peu quelques secondes sur comment la nation a phagocyté, a bu le peuple en l'éliminant. Et c'est pour cela qu'à un certain moment, la démocratie du peuple est disparue et est devenue le pouvoir de la nation. Une nation qui n'était plus le peuple. En quel sens? C'est quand que tout cela a commencé à s'affirmer? À partir du moment où on a ethnicisé le peuple. C'est-à-dire, le peuple, hein, ethnicisé, c'est-à-dire, a donné une matrice ethnique à l'existence des peuples. Il y a des peuples parce qu'on fait partie de la même nascitude, c'est un natio. Natio vient de latin nascere. Nascere, nascita, non? C'est la naissance, quoi. Hein? Et on est une nation parce qu'on appartient à la même famille ethnique. Parce qu'on descend de la même famille, du même groupe. Hein? Si tu n'es pas du même groupe, que ce soit la terre, le sang, regardez les débats aujourd'hui sur Ius Soli, hein, sur les droits du sol, le droit de la nationale, etc., etc., de la citoyenneté nationale. Tout ça, ça encore est déterminant dans la manière de donner un sens à ce qu'on est, et un sens à une communauté. Une communauté, peuple ne dit pas grand-chose aux gens. Une communauté nationale, on s'identifie la même langue, la même culture, le même sang, etc. Et ça, cette ethnicisation a fait disparaître parce que une communauté de nationaux, au fond, donne la légitimité à l'existence aux individus qui font partie de la nation, mais s'ils ne font pas partie de la nation, ils n'ont pas de légitimité d'existence, ils sont autres. C'est l'autre, c'est les divers. C'est lui qui s'est éloigné, ce n'est pas moi, ce n'est pas nous. Tu n'es pas français, tu n'es pas chinois, tu n'es pas américain. Et le peuple, au contraire, n'a pas besoin pour exister d'une appellation de type ethnique. Le peuple existe dans une communauté. Ici, en Belgique, en Europe, il y a le peuple. L'Européen n'a pas besoin d'être européen pour être peuple et pour avoir les droits des peuples et pour avoir droit en tant que membre d'une communauté des êtres humains. Alors que tu as droit, si tu es national, quoi. Si tu as une spécification qui te différencie des autres, qui te rend divers. Et c'est pour ça que toi, tu as les droits et les autres n'ont pas les droits. Et donc, cette acquisition et après vidange du concept de peuple par la nation, parce qu'elle a substitué au peuple une entité mythique, sacrée, la nation. Un peu comme Dieu. C'est comme si nous étions orphelins de Dieu. L'ethnicisation du peuple nous a donné notre Dieu, nous a donné la nation, une indivisible pour laquelle tout Français doit mourir. Il y a des chants en France. On meurt pour la nation, comme on devait mourir pour le Dieu. Personne ne meurt pour le peuple. Et personne ne dit, tu dois mourir pour le peuple. Mais tu dois mourir pour la nation. Et qui est la nation? Mais c'est cette partie du peuple qui a le pouvoir sur le peuple et que pour légitimer extra eux-mêmes le pouvoir qu'ils ont, ils font référence à une hétéronomie qui est celle de la nation qui existe, qui a toujours existé, et que depuis tous les temps, c'était l'histoire que la nation chinoise devait naître, que la nation américaine devait naître, que la nation française devait naître, la nation italienne devait naître, etc. etc. Et donc le peuple, on s'en fout, quoi. Et cette ethnicisation donne une sacralité qui n'est pas liée à la contingence de ceux qui font partie de la nation. Parce que dès que tu es marqué du fait qu'on t'a donné la citoyenneté nationale, eh bien, toi, tu es sacré. C'est comme si tu deviens membre baptisé de l'Église. On ne devrait plus parler de démocratie. Et d'ailleurs, la démocratie nationale n'a pas besoin, comme la démocratie populaire, d'être représentée. La nation, elle est là. Et toi, tu n'es que finalement, non pas les représentants dans la démocratie des citoyens, du peuple, tu es représentant de la nation, c'est-à-dire tu dois obéir. La démocratie nationale est contre la démocratie par rapport à la démocratie populaire. Parce que la démocratie nationale n'a pas besoin, finalement, des élections. La nation existe. Et c'est la nation. Le pouvoir appartient à la nation. Alors qu'on avait dit, le pouvoir appartient au peuple. Et le peuple a besoin d'être représenté. La nation, non, elle est là. Elle est une, indivisible. Comment peux-tu représenter quelque chose qui est une, indivisible? Alors que le peuple est pluriel. Le peuple est dynamique. Le peuple n'a pas de frontières. Et quand aujourd'hui on se trouve face à cette expropriation de le concept fondamental de la démocratie du peuple, on les voit maintenant en Catalogne. C'est-à-dire, on a ce qui est extraordinaire en ce moment, c'est que notre société occidentale a inventé toute une série de principes et puis les a complètement transformés. On a inventé le principe de l'autodétermination des peuples. Non? Et le principe du 19e siècle a été capturé, l'autodétermination des peuples, le principe des nationalités. C'est-à-dire un peuple qui n'est pas, ce n'est considéré pas une nation, ou un peuple qui n'est pas considéré par les autres une nation, n'a pas le droit d'être autodéterminé. Il n'y a pas d'autodétermination des peuples, il y a autodétermination des nations. Mais puisque Les nations qui se sont autodéterminées, qui ont créé un État souverain, unique, indivisible, impossible de les changer parce qu'il y a une constitution nationale. Hein? Quand il y a des peuples qui essayent de devenir un peuple avec des États, eh bien, eux, ils invoquent les principes du droit, de l'État de droit. Tu ne peux pas devenir indépendant, comme on dit l'autodéterminé au catalan, parce que tu fais partie désormais d'un État, en Espagne, la nation espagnole, et tu n'as plus de droits, parce que tu n'es plus un peuple, tu fais partie de la nation espagnole. Et alors, le principe d'autodétermination de peuple a permis aux peuples qui sont devenus nation de se faire État-nation, et maintenant qu'ils sont État-nation, l'histoire devrait s'arrêter. Les cas des Kurdes. Les Kurdes sont en Turquie, en Irak, dans l'ex-Union soviétique, etc. Mais ça fait 150 ans que les Kurdes se battent. Mais les autres États faits par les Anglais et les Français, qui ne voulaient pas des Kurdes devenir un État kurde assez puissant de la région, puisque désormais ils étaient bien d'accord avec le démantèlement de l'Empire ottoman, et c'était bien ottoman, ils étaient bien d'accord avec la Turquie, la Syrie, l'Irak, etc., les Anglais, les Français, ils étaient heureux de ça. Ils ont interdit les Kurdes, et ça fait 150 ans que les Kurdes se battent. Mais nous sommes un peuple. Non, tu deviens un bandit. En Turquie, tu es un bandit. En Irak, tu es un bandit, et je te mets en prison. Et aujourd'hui, on dit aux Catalans, vous êtes des bandits, vous êtes anticonstitutionnels. Alors, il est vrai que tout cela est très, très plein de contradictions. Mais la nation a... ça s'applique dans des cas. Le concept, c'est que la nation, en ayant ethnicisé le peuple, a détruit la démocratie, le concept de démocratie. Et c'est pour cela que la représentation populaire n'est pas dans la représentation nationale. Et la représentation nationale, on l'a dit, l'État-nation n'a pas besoin de démocratie. En revanche, l'État des droits et l'État des peuples a besoin de démocratie, a besoin de représentation et de forme directe. La forme directe de la nation n'existe pas. C'est les institutions, nous sommes là, l'Assemblée nationale. Mais là, pour non pas exprimer la volonté du peuple, parce qu'il n'existe plus la volonté du peuple, existe la volonté nationale. Et aujourd'hui, le concept de souveraineté nationale, de sécurité nationale, empêche tout accord au niveau mondial. Les changements climatiques, de nouveau, pourquoi n'avance pas ? Parce qu'on n'a pas réussi à dépasser les stades que la responsabilité des choix pour le devenir est toujours un choix souverain national. Le fameux accord de Paris s'est basé sur le principe de la souveraineté nationale. C'est les engagements librement et souverainement proposés par chaque État. On dit, écoutez, nous avons décidé qu'il faut empêcher d'arriver aux 2 degrés, non ? Mais après, les engagements, il n'y a pas d'engagement commun. Il n'y a pas un traité qui dit « Vous devez, de manière contraignante, faire ceci, ceci, on fait ensemble. » Tout dépend des engagements pris unilatéralement par les États souverains. En fonction de quoi ? En fonction de la sécurité nationale. Aucun traité du changement climatique parle de sécurité de l'humanité ou sécurité mondiale. Aucune. Du point de vue juridique, il n'existe pas la référence à la sécurité mondiale. Du point de vue des concepts qui font droit, les traités changement climatique, comme tous les autres traités internationaux, intergouvernementaux, affirment les principes de la souveraineté et de la sécurité nationale. Et aujourd'hui, la sécurité nationale, la souveraineté nationale, c'est différent de la souveraineté alimentaire du peuple. Ils jouent, hein, vous savez, quand ils vous parlent de souveraineté ou sécurité alimentaire, ils jouent, ils ne parlent pas du peuple. Et il parle, par exemple, de la sécurité alimentaire pour le développement économique du pays, quoi. Et au fait, c'est pour le développement économique des entreprises qui doivent être compétitives sur le plan mondial grâce à l'aide de l'État national pour assurer la sécurité alimentaire et énergétique. La sécurité énergétique est la chose la plus paradoxale. Quand on parle de sécurité énergétique, à qui on pense ? À la sécurité énergétique des peuples ? Hein ? À quoi on pense ? Ben, la sécurité hydrique, Coca-Cola, qui te parle le monde entier, il va parler qu'il faut la sécurité hydrique, il faut la sécurité hydrique. Vous croyez qu'il s'occupe de 550 millions d'Indiens qui n'ont pas accès à l'eau ? Au contraire, il veut avoir accès à travers maintenant les grands barrages dans la vallée Narmada en Inde. Il veut avoir à usage de l'eau qu'on va faire dans c'est le deuxième grand fleuve de l'Inde, sur la Narmada, pour pouvoir s'approvisionner elle. Elle parle de sécurité hydrique. Et quand on parle de sécurité hydrique pour la France, on ne parle pas pour les Français ou du peuple en France. Il parle de l'économie. Il parle des entreprises qui ont besoin d'eau. Il parle de l'hydroélectrique. Il parle besoin de l'eau pour l'énergie nucléaire. Il parle, ça, c'est la sécurité énergétique. Je voudrais terminer à temps maintenant avec le troisième. Et alors, vous pouvez imaginer qu'aucune solution mondiale, aucun plan économique mondial, aucune réforme du système financier mondial n'est possible au nom de l'humanité. C'est au nom de la sécurité financière des pays, quoi. Au fond des banques. Parce que pourquoi la nation n'est pas la démocratie ? Parce que la nation, en réalité, est l'expression des groupes sociaux dominants qui ont bâti leur État sur la base d'une nation qui était un alibi, mais qui était la légitimité réelle de leur pouvoir dans un territoire donné. Et ce n'est pas parce que nous sommes en Belgique, mais j'ai dédié presque 8 pages dans le livre à expliquer comment la nation belge a tout détruit et a créé justement l'indépendantisme flamand, mais maintenant l'indépendantisme wallon, et dans lequel finalement mon hypothèse qu'à terme la Belgique va disparaître, quoi. Je ne sais pas si dans 2000 ans ou dans 20 ans, mais c'est parce que la nation a transformé complètement l'histoire des peuples qui habitent ces territoires en les mettant dans la position de ne plus savoir vivre ensemble. Et quand on sait qu'au changement climatique à Paris, jusqu'encore quelques heures avant la rédaction finale, on ne savait pas que c'était les priorités, les engagements que la Belgique prenait, parce que les Flamands prenaient des engagements, les Wallons d'autres, et qu'on ne savait pas. Et vous imaginez que si 11 millions d'habitants ne se mettent pas ensemble au nom de la nation, nation flamande, nation naissante wallonne, etc., ou la communauté bruxelloise, imaginez-vous si les 7 et plus milliards de gens, au nom de la nation, au nom de la sécurité nationale, au nom de l'indépendance nationale, peuvent se mettre d'accord sur le plan mondial. Donc voilà la thèse. Et finalement, ces deux producteurs d'essence, tout en étant contradictoires, paradoxaux, bon, ont joué et jouent encore un rôle d'inhibition, même s'ils peuvent contribuer à faire grandir une conscience planétaire. L'internationalisme de la classe ouvrière, bon, qui est terminé, n'est plus là, mais c'était basé sur les ouvriers allemands qui étaient solidaires avec les ouvriers argentins, quoi. Il y avait ça aussi, comme les chrétiens peuvent être très, très généreux, organiser toute une série de choses dans l'intérêt de l'humanité. Mais c'est marginal, ça. Le troisième producteur d'essence n'a même pas ça. Il n'est même pas des côtés positifs. Et c'est au nom de l'argent. Au nom de l'argent signifie que la valeur de tout ce qui existe dépend de sa référence, de sa pertinence par rapport à la création de richesses du capital existant. Et là, c'est un passage important au nom de l'argent qui reflète ce qui est arrivé depuis deux siècles. C'est-à-dire que la richesse, jusqu'à il y a deux siècles, était considérée un fait patrimonial. On a un patrimoine. Et que finalement, l'économie était comment maintenir, sauvegarder, valoriser ce patrimoine. À partir du XVIIIe siècle, avec l'industrialisation et petit à petit, et ces dernières années, avec la technologisation, le patrimoine a perdu de sens dans la notion de la richesse. Ce qui est important, c'est justement les revenus. Et les revenus ont un flux par rapport au patrimoine qui est un stock. C'est pour cela que tout, même des stocks, des ressources n'ont de valeur que s'ils sont exploités pour créer du revenu. Inutile de raconter dans les systèmes actuels qu'un stock de ressources doit être sauvegardé. Parce qu'ils nous disent, mais si tu gardes une forêt, quelle est la valeur de cette forêt? Est-ce qu'elle est productrice de revenus? Et si elle est productrice de revenus, en permanence, et de plus en plus de revenus. Mais tu vas l'éliminer, cette forêt. Mais peu importe. Qu'est-ce que je m'en fais, moi, d'un stock de ressources naturelles? Il faut extraire. Et c'est pour ça que toute la logique extractiviste l'a emporté avec l'industrialisation et la technologisation. Quand on dit, par exemple, qu'une technologie doit être en mesure d'extraire de chez nous les compétences, les savoirs, la créativité qu'on a, on est dans une logique de flux de revenus. Et si moi, je ne suis pas capable de devenir susceptible de créer des flux de revenus, je ne vaux rien du tout. Moi, je suis un stock, mais je ne sers à rien. Et donc, au nom de l'argent, signifie que tout qui existe a droit d'existence dans la mesure où elle est productrice de revenus. Et les revenus monétaires, un revenu qui ne soit pas monétaire, ça fait partie des bons sentiments, ça peut faire partir, mais ce qui compte, hein, revenu monétaire. C'est pour cela qu'alors la monnaie est devenue une marchandise. C'est pour cela que depuis ces 40-50 ans, la monnaie elle-même est devenue une marchandise. Et vous valez en fonction de combien vous avez d'avoir financier. Capgemini a inventé une notion terrible. Les gens, selon Capgemini, sont divisés entre deux catégories. Les HNWI, qui en anglais signifie High Net Worth Individuals, c'est-à-dire des individus qui valent pour un revenu net. Ceux qui ne sont pas high-end, sont des gens qui n'ont pas de valeur. Au nom de l'argent, est-ce que vous êtes high-end ou pas? Et c'est individuals. Hein? Ils s'en foutent de communauté, peuple, c'est individuals. C'est le revenu individuel. C'est le revenu collectif ou autre chose. Mais le revenu individuel. Au nom de l'argent, donc, on le comprend, inutile que moi j'explique davantage, mais au nom de l'argent signifie que toute existence de vie, un microbe, une plante, nous-mêmes, nos gènes, ont droit d'existence dans la mesure où ils répondent au fait du rendement financier. 52% des jeunes de la Méditerranée, je le répète, sont des millions et des millions, ne valent rien parce qu'ils ne peuvent pas produire du revenu. Et c'est pour ça qu'ils sont sans emploi. Aujourd'hui, 52% des jeunes en Méditerranée ne valent rien, rien. Tu dis, mais c'est un fils, c'est une fille. Et alors, c'est un jeune homme. Et alors, à quoi, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas les entretenir comme ça, sans travail. S'ils ne travaillent pas, qu'est-ce que... On ne peut pas les maintenir ad vita durante, pour le reste, avec de l'argent. Ben, bien entendu, il a les thèses sur les revenus de base, basic income, revenus de citoyenneté, etc. Mais ça, c'est une autre chose. C'est quand on dit, il faut malgré tout donner quelque chose à ces gens pour pouvoir acheter. C'est pour ça que je leur donne l'argent, mais je ne leur donne pas les santé, je ne leur donne pas les services, je ne leur donne pas du logement, je ne leur donne pas de l'eau, je ne leur donne pas d'énergie. Je leur donne 80 euros ou 100 euros pour qu'ils puissent acheter l'énergie, l'eau, les logements, etc. Hein? Donc, au nom de l'argent. Et alors, au nom de l'argent, on a tout conditionné. Même maintenant, les musées, les expositions universelles, tout, le sport, figurez-vous, le sport. Football, tennis, l'athlétisme, Formule 1. Non, rien, c'est désormais de l'argent. Et les gars qui sont en Formule 1, c'est une prothèse, c'est une machine hautement technologique. Non? C'est d'une technologie. Le gars en Formule 1, c'est pas lui qui conduit, quoi. C'est les techniciens à distance qui lui disent « fais ci, fais là, change, hein, hein. » Avec une machine qui est toute technologique pour y aller toute seule. Donc, au nom de l'argent. Et au nom de l'argent, il n'y a plus de démocratie. Pourquoi c'est scandaleux que cette Europe ait imposé dans nos constitutions, et nous tous nous avons avalé comme des petites fourmis, on a avalé l'idée qu'il fallait introduire dans nos constitutions les principes de la parité budgétaire. Et dans ce principe de la parité budgétaire, on doit calculer les recettes et les dépenses en fonction du nom de l'argent. De quoi ? C'est-à-dire que vous ne devez pas calculer les dépenses militaires. Chaque État peut continuer à dépenser tout ce qu'il veut dans l'armement. Il n'est pas soumis aux contraintes de la parité budgétaire, c'est-à-dire niveau d'endettement public, etc., déficit public, ça. Non, vous pouvez dépenser tout ce que vous voulez. Mais on ne peut pas dépenser si on veut modifier les systèmes de pension, si on veut intervenir socialement. Toutes ces dépenses qui sont dites sociales, éducation, santé, etc., travail, elles doivent respecter la contrainte de la parité budgétaire. Vous voulez augmenter les dépenses, vous devez avoir les recettes. Vous n'avez pas les recettes pour augmenter ça, vous ne pouvez pas les faire. Vous voulez dépenser pour les HFSS, vous pouvez les faire. Donc, au nom de l'argent, a complètement vidé de sens même la souveraineté nationale. Complètement vidé de sens la démocratie. Donc, c'est au nom de l'argent à modifier même le fondement de la démocratie. Comment voulez-vous avoir une réponse mondiale dans l'intérêt de l'humanité quand vous avez ces trois grands producteurs d'essence que nous avons acceptés, c'est ce qui est intéressant. Nous avons accepté qu'au nom de l'argent, on privatise tout. Au nom de l'argent, il n'y a plus de biens communs. Où sont les biens communs que la Belgique a? Qu'est-ce qu'on a comme biens communs au service public? Même l'épargne. Au nom de l'argent, l'épargne a été privatisée. Il n'y a plus une caisse d'épargne publique. Les communes n'ont plus d'argent, finalement, sauf les riches. C'est pour cela que plus de 50% des recettes communales viennent des amendes administratives. Et quand une commune a besoin d'argent, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'endette vis-à-vis des marchés financiers parce que la caisse de dépôt et consignation n'est plus publique. Donc quand nous, les citoyens, dans des administrations communales, sauf les villes riches, on a besoin d'argent, la commune s'endette sur les marchés financiers. Et les marchés financiers sont des capitaux privés. Et pourquoi? Pour augmenter ou réviser un système d'hôpitaux dans une grande ville, les gens doivent s'endetter sous les marchés financiers qui, eux, ils sont des actionnaires australiens, des actionnaires américains, des actionnaires suisses, que tu dois rembourser. Et c'est pour ça que tu dois rembourser. La mécanique des bons de trésor ou des emprunts publics était qu'on était endetté nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes. Maintenant, on est endetté vis-à-vis de l'étranger. Je dis comme ça. Voilà, ces trois facteurs mis ensemble, à mon sens, expliquent pourquoi nous ne sommes pas capables de résoudre ensemble les problèmes que nous avons créés. Et c'est pour cela qu'on passera alors à la prochaine fois à entamer l'idée du rôle de l'humanité. Et on aura plus de 3 rencontres sur les solutions. Parce que jusqu'à présent, je me suis permis de dénoncer l'affaire, de décrire ce qui se passe. Bien entendu, je n'ai pas donné de solutions, mais à partir du prochain vendredi, on commencera à essayer de voir comment s'attaquer et par quelle base commencer à se donner un processus ou des processus qui nous permettraient d'arriver à identifier des solutions dans l'intérêt général. Voilà. Maintenant, Damien.
Vous venez d'écouter Ricardo Petrella, enregistré le 6 octobre 2017 à la Maison des Cultures de Molenbeek. Au nom de Dieu, de la nation et de l'argent, l'impasse mondiale était le titre de cette conférence que vous pourrez retrouver avec d'autres activités de la Brussels Academy sur le site www.brusselsacademy.be.
Aquí se escucha Radio Campus 92.1.